locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du Pédalo, notre émission estivale sur les ondes de Radio Campus Angers. Ce soir au programme, une émission bien garnie avec deux interviews. On commencera avec des membres de Éclat 49 qui permet aux citoyens de se réapproprier la production énergétique avec l'installation de panneaux solaires. On en reparle juste après. En deuxième partie d'émission, on retrouvera Fanch qui nous présentera un DJ set porté par BAM, anciennement La Bamboche, avec en guest donc la présence du collectif nantais Abstract ce jeudi 25 juin. Au parc Saint-Serge. Ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo met des watts dans ce pédalo ce soir.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Avec moi dans le studio ce soir, Elisa. Salut Elisa.
Salut Hugo.
C'est toi qui as préparé l'interview et qui va donc poser les questions à nos invités ce soir de Éclat. Un tout collectif, une association, une entreprise, on ne sait pas trop encore.
Oui, complètement. Donc aujourd'hui avec nous dans le studio, on a Stéphane Méal, Dominique Briot et Vincent Briand-Boucher qui sont membres d'Éclat. Donc en lien avec CoWatt, Éclat permet aux citoyens qui souhaitent installer des panneaux photovoltaïques de se réunir et de mettre en place des panneaux solaires sur les toits angevins. Ces communautés constituées de particuliers, entreprises et collectivités sont accompagnées par Éclat et CoWatt pour mener à bien ces projets. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Donc moi concrètement, si je veux installer des panneaux solaires, c'est vous que j'appelle.
C'est pas vous qu'on appelle.
Bah, si vous voulez installer des panneaux solaires à titre privé sur votre toiture et que vous voulez les financer vous-même, non, c'est pas nous que vous appelez.
Ça s'adresse qu'aux collectivités ?
Alors, ça ne s'adresse pas uniquement aux collectivités. En fait, nous, notre démarche, elle est collective, effectivement. Donc, l'objectif, c'est bien de regrouper des citoyens qui vont financer des installations, mais qui peuvent être sur n'importe quel bâtiment et pas forcément sur leur propre bâtiment. Effectivement, ça peut être, par exemple, si c'est une entreprise qui veut faire appel à nous pour installer des panneaux sur son entreprise, nous, on arrive avec une démarche citoyenne. Donc, on va trouver des citoyens, voire les salariés de l'entreprise, voire l'entreprise elle-même, qui vont co-investir, finalement, dans les panneaux qu'on va installer sur leur toiture. Donc l'objectif, c'est bien de faire la production citoyenne, donc en intégrant un maximum de citoyens dans une démarche de production, de transition énergétique sur le territoire.
Éclat a fait un premier projet sur une maison individuelle, avec une surface plutôt petite, mais Éclat ne souhaite pas refaire sur une surface trop petite, puisque en fait, ça prend trop d'énergie, trop d'investissement, trop de temps pour tous les membres de l'association. Donc maintenant, la surface augmente, donc des particuliers peuvent faire appel à nous, pour revendre leur énergie ou en autoconsommation, mais revendre l'énergie et que ça soit profitable à tout le monde. C'est plutôt ça le principe, en fait. Mais si un particulier veut pour lui-même, en général, ce n'est pas intéressant pour nous.
D'accord.
Oui, d'autant plus que, alors, je précise quand même, parce qu'il faut quand même qu'on soit très précis, on l'a fait sur la toiture d'un particulier, mais l'installation n'appartient pas à ce particulier. Ce particulier, en fait, nous loue, entre guillemets, sa toiture. Donc c'est un accord qu'on a avec ce particulier. Les panneaux photovoltaïques appartiennent à Éclat CoWatt.
Oui, c'est effectivement ça. Bon, pour celles et ceux qui sont porteurs de projets, vous avez sur votre site un kit de survie CoWatt d'une cinquantaine de pages qui explique très distinctement les démarches à suivre justement pour mettre en place ces projets collectifs. Ça semble être assez long comme démarche tout de même.
50 pages, hein.
Oui,
c'est vrai. C'est vrai.
Concrètement, aujourd'hui, si je veux monter un tel projet, comment je fais ? Par où je commence ?
Bah, c'est nous qui... Enfin, on s'en occupe.
Là, on vous appelle.
C'est ça.
Bah oui,
là où
parce qu'effectivement, déjà, les 50 pages, effectivement, ça vous fait peur. Enfin,
le nom aussi, d'ailleurs.
Ouais, kit de survie.
Et oui,
c'est un gros travail qui a été fait, non pas au niveau d'Éclat, mais au niveau de CoWatt. Alors, c'est vrai que les gens... Il va sans doute falloir définir qui c'est CoWatt par rapport à Éclat. Mais donc, comme son nom l'indique, c'est un kit de survie, c'est un document qui a été fait par CoWatt pour les communautés. Éclat, on est une communauté de CoWatt. Et nous ne sommes que des bénévoles. Certains effectivement, sont un peu techniciens, mais pas tout le monde. Et nous, on est juste des citoyens, et on y croit, et on donne notre temps, et on fait ce qu'on peut. On a besoin d'un kit de survie pour pouvoir suivre toutes les étapes.
Et justement, dans ce kit de survie, vous parlez de communauté, donc communauté de citoyens qui s'organisent pour mettre ces projets en exergue. Et c'est quoi exactement pour vous une communauté ? Si je veux en créer une, finalement, comment je fais ?
C'est un groupe de citoyens qui s'associent sur un territoire donné. C'est principalement une animation qui promeut le solaire photovoltaïque. Et on s'appuie sur CoWatt, qui en fait regroupe, qui est la partie plutôt administrative et technique de l'ensemble. Donc chaque groupement communauté, comme par exemple Éclat sur Angers, Éclem dans les Mauges, eh bien s'appuie sur CoWatt, sur la partie administrative pour les contrats, pour la partie technique, pour qui serait beaucoup trop lourd en fait pour chaque communauté en fait.
Oui, la partie juridique aussi.
Et la partie juridique.
Oui, pensez.
Effectivement. Et combien ça coûte finalement de monter un tel projet ? Parce que j'ai vu que les financements étaient participatifs autour des membres.
Alors tout dépend du type de projet, effectivement. Alors j'ai par exemple la première centrale qu'on a montée de 8 kW. Alors je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, hein, 8 kW, c'était à peu près 60 mètres carrés de panneaux solaires sur la toiture. On en avait à peu près pour 12 000 euros, je crois, un peu plus.
Voilà, concrètement, c'est une production d'énergie pour une maison
Alors ça correspond à peu près. Alors pour là, si on parle de 8 kW, ça va produire à peu près 8000 kWh par an, donc ça fait à peu près la consommation de 2 ménages et demi par an, à peu près.
D'accord, voilà. Donc pour 60 mètres carrés.
Pour 60 mètres carrés, voilà, exactement. Et là, aujourd'hui, on a deux installations en cours de projet, hein, donc une sur la toiture de l'école Alfred de Musset, donc à mon plaisir, qui elle fera plus 60 mètres carrés, elle va faire 200 mètres carrés, donc là, on va être sur quasiment 40 kW, et puis une sur le projet Emmaüs, où là on va être carrément sur 120 kW, 500 mètres carrés. Donc là vous voyez, bah forcément, après on peut être aussi sur, voilà, il n'y a pas de limite, j'ai envie de dire, il y a aussi des installations au sol. Si vous allez au Pont de C, vous avez la petite vicomté, là vous avez 11 hectares de panneaux solaires, on n'est pas sur ce type d'installation.
Et puis plus c'est grand, plus ça coûte cher.
Plus ça coûte cher, mais plus il y a de retour sur investissement.
Plus il y a de retour sur investissement, alors justement on va en parler.
Et justement, vous avez fait le pari d'installer des panneaux solaires dans les Pays de la Loire, donc ici au Maine-et-Loire, et dont on compte près de 2000 heures d'ensoleillement par an, là où le sud de la France en compte 500 heures de plus. Est-ce
donc
que
2500.
C'est tout de même rentable ?
Oui, bah, ces chiffres-là, en ce moment, il y a beaucoup de soleil. Hein.
C'est une stratégie qui se base sur le réchauffement climatique ?
Non, pas, non. Enfin, nous, on...
Ça n'est viable qu'en cas de réchauffement climatique.
Nous, justement, on lutte contre... Enfin, en promouvant les énergies renouvelables, on espère effectivement un peu lutter contre le réchauffement climatique à notre niveau. Mais des panneaux photovoltaïques, vous allez en trouver plein en Suède. Hein. Donc c'est une question, à ce moment-là, on les met au Sahara. Enfin, ça,
eh oui, juste pourquoi pas. Pourquoi c'est...
Il y a une petite... alors moi, je ne suis pas hyper technique, hein, mais il y a une notion que je viens juste d'apprendre, c'est que quand il fait trop chaud, hein, les périodes où les panneaux photovoltaïques sont les plus profitables, c'est le printemps et l'automne.
L'hiver aussi. Grand ensoleillement en hiver, c'est très productif.
Parce qu'en fait, la difficulté en été, c'est qu'il faut qu'il refroidisse aussi quand même. Hein. Autrement, il chauffe de trop. Donc,
il y a besoin de ventilateurs à l'intérieur des panneaux photovoltaïques.
Non.
Et effectivement, il vaut mieux qu'ils soient ventilés naturellement pour améliorer le rendement. Sinon, on perd le rendement.
Oui, alors pour la question du Sahara, l'idée, c'est aussi d'installer la production d'électricité proche de là où on la consomme.
D'accord, oui.
Parce qu'il y a des pertes sur les grands réseaux, là, les grandes lignes haute tension qu'on voit, il y a énormément de pertes. En France, ça se chiffre en milliards d'euros, hein, de pertes en termes d'énergie dans les lignes haute tension. Donc nous, notre idée, c'est Angers, c'est une grande ville, une grande partie de l'électricité, quasiment presque toute l'électricité vient de Chinon, hein, faut pas se leurrer, de centrales nucléaires qui est loin.
Donc, ça loin, pas si loin comparé à d'autres points en France.
Si on met des panneaux photovoltaïques sur Angers, cette électricité sera consommée sur Angers, forcément. Bon, après, on va pas rentrer dans la technique, hein, mais on a tout intérêt à mettre les installations près des centres de consommation. C'est aussi du développement durable, ça.
Et puis valoriser les circuits courts.
Tout à fait. Le circuit court, c'est pas que chez Biocoop, effectivement, c'est aussi pour l'énergie.
Exactement.
Et justement, vous avez choisi d'installer des panneaux solaires et pourquoi pas d'autres solutions énergétiques. On pense par exemple aux éoliennes domestiques.
Très mauvaise idée.
Non, oui. Alors, mauvaise idée, en tout cas, aujourd'hui, économiquement, l'éolienne domestique, c'est pas suffisamment rentable pour qu'on puisse prévoir ce développement dans un cadre économique, puisque nous, on reste quand même contraints, finalement, par des impératifs de rentabilité. Alors, même si ça reste citoyen, il faut quand même qu'on puisse juste financer nos installations par la vente d'électricité. Donc, aujourd'hui, avec des éoliennes domestiques, on peut pas. Alors, peut-être que dans un futur... Après, il y a d'autres types d'énergie, effectivement. Pour l'instant, Coat et Éclat, on est positionné sur le photovoltaïque parce que c'est l'énergie la plus simple à développer aujourd'hui. Peut-être que dans l'avenir, on pourrait se positionner sur d'autres formes d'énergie. Mais par exemple, un projet de grand éolien aujourd'hui, c'est des années et des années de développement et puis c'est des sommes aussi.
Et en plus, il y a moins d'obstacles culturels en panneaux photovoltaïques que l'éolien. Il peut avoir quelques obstacles si on veut installer des panneaux photovoltaïques près d'un bâtiment historique, ça s'arrête là, quoi. Généralement, c'est peu visible.
C'est-à-dire que même pour des éoliennes locales, des éoliennes mises sur le toit de sa propre maison, il y a des réticences et ça ne marche pas.
On ne peut pas mettre... Techniquement, une éolienne, ça vibre énormément. Quand j'ai entendu le mot éolienne domestique, ça m'a tout de suite dit très mauvaise idée. Parce qu'effectivement, il y a le petit éolien qui, franchement, n'a aucun intérêt. Et il y a le très grand éolien. Et bon, celui qui fait polémique, c'est le très grand éolien. Mais le tout petit éolien, ça produit de l'énergie continue, c'est pas adapté sur le réseau. Et le tout petit éolien, c'est peanuts pour des installations très chères et qu'on n'aura pas le droit de mettre en ville, clairement, pour des histoires de...
culturelles, entre autres, mais aussi sécuritaires.
Il faut de la place et puis il y a des monuments
historiques. Il y a toujours des tests, des innovations, les industriels qui essayent aussi de développer des solutions un peu, des statuaires sur les accrotères des bâtiments, des choses comme ça, mais c'est un peu aussi des choses un peu innovantes aujourd'hui, pas suffisamment matures.
Les panneaux solaires restent la meilleure solution
En ville, oui. Les éoliennes, on est pour les éoliennes, mais pas en ville, évidemment. Il y a des projets éoliens en Anjou.
Et est-ce que vous seriez pour développer un projet éolien ailleurs, en lien avec...
Pourquoi pas, mais d'autres le font très bien, et c'est des projets très très complexes à mettre en œuvre.
On pose la question à dessein, puisqu'on s'est questionné sur l'impact écologique des panneaux photovoltaïques.
Oui, complètement, parce que la production d'un module de panneaux solaires, donc il émet une quantité de CO2 liée aux besoins énergétiques de production... l'énergie grise, qui sont quand même supérieures à d'autres installations bas carbone. Donc, par exemple, là, comme je parlais d'éolien, c'est ce que je vais citer, qui sont en moyenne donc, 3 fois supérieures à l'éolien. Et pourquoi, du coup, selon vous, ça reste tout de même la meilleure solution ?
Alors, il y a plusieurs aspects. Premièrement, Éclat se focalise sur l'utilisation de toitures existantes. Donc déjà, on évite l'artificialisation du sol, excusez-moi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur le retour sur investissement au niveau du CO2 des panneaux photovoltaïques, si les panneaux sont fabriqués en France, il faut 2 à 3 années à peu près. S'ils sont fabriqués en Chine, il faut peut-être 3-4 années. Enfin, il faut prendre mes chiffres à la légère, mais c'est à l'ordre de grandeur. Et donc, c'est quand même relativement très très court par rapport à d'autres formes d'énergie.
Vous dites que c'est il y a un retour sur investissement énergétique.
Oui, au niveau CO2.
Au niveau CO2.
Oui.
Et du coup, est-ce que vous faites plus appel à des fournisseurs de panneaux solaires français ou
En fonction du modèle économique, on choisit quand même souvent. Alors, on choisit quand même souvent des panneaux chinois, en sachant que de toute façon, le module de base, lui, quoi qu'il arrive, il est fabriqué en Chine.
Le silicium.
Oui, c'est vrai qu'en Chine.
En France, on n'a que des assembleurs.
Oui.
C'est effectivement, comme dit Dominique, le silicium, tout le silicium mondial, je crois, vient de Chine, donc il ne faut pas se leurrer.
Après, il y a un second aspect sur les panneaux photovoltaïques. Les constructeurs garantissent les panneaux photovoltaïques entre 15 et 25 ans, hein, grosso modo. Quand on dit garantie, c'est qu'au bout de 20 ans, le panneau photovoltaïque, il n'est pas mort, hein, il peut toujours être utilisé. Simplement, au cours des années, la production décroît légèrement. Donc, ils garantissent une production, il va me faire corriger par mes collègues, une production sur, en fonction des constructeurs, entre 15 et 25 ans. Mais après, ils peuvent toujours servir, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est ça l'intérêt. Et en plus, les panneaux photovoltaïques rigides, par rapport aux panneaux photovoltaïques souples, ils ne contiennent pas de terres rares.
De métaux rares.
De métaux rares.
Oui.
Et donc, là, on a des panneaux qui sont recyclables. Et il y a des filières qui sont montées en France, je crois qu'il y en a deux. Oui. Hein, recyclables entre 92 et 96% en fonction des panneaux. Ouais. Et c'est de la matière inerte, donc facilement recyclable. Voilà.
Justement, oui, j'allais y venir au recyclage en fait, de ces panneaux solaires. Donc, comme vous le dites, un recyclage total n'est pas possible.
Et, 96%.
Oui, voilà. Mais après, voilà, il reste quelques matériaux. Vrai. Mais du coup, à qui les communautés doivent s'adresser pour faire recycler ou au moins traiter les panneaux solaires? Et tout ce qui n'est pas recyclable, qu'est-ce qu'on en fait?
En l'occurrence, c'est 4%. Mais effectivement, comment on fait pour recycler?
Déjà recycler. Mais en fait, aujourd'hui, il y a une association qui s'appelle PV Cycle et qui est chargée. Alors, en fait, les fabricants sont obligés de cotiser, comme pour tous les matériels électroniques maintenant, aujourd'hui d'ailleurs. Hein, les fabricants cotisent à cette association qui est chargée du recyclage. Donc finalement, le coût de déconstruction, de recyclage de ces panneaux, il est pris en compte lors de l'achat de l'acquisition des panneaux. Et après, c'est cet organisme qui va être chargé de la collecte. Et puis derrière du traitement, donc de faire financer le traitement par les entreprises spécialisées comme Veolia aujourd'hui par exemple en France, hein, qui a développé une usine dans le sud-est, voilà, pour retraiter ces panneaux.
Et les 4%? On sait pas trop.
Non, mais en fait, pour les 4%, on va reprendre la question à l'envers.
Ouais.
Est-ce que tous les objets qu'on achète, est-ce qu'on se préoccupe réellement, est-ce qu'il reste 4% de recyclable?
Non, vous avez raison, ceci étant dit, pour un objet qu'on considère comme étant à la pointe de ce qu'on peut proposer aujourd'hui dans la production d'énergie renouvelable, on va chercher, voilà, c'est des questions légitimes.
Il y a des limites technologiques.
Oui.
Après,
oui,
c'est la seule question, c'est est-ce qu'on peut se passer d'électricité Sinon, il faut comparer. Alors, au début, vous avez posé la question sur les éoliennes. Là aussi, il y a des problèmes de recyclage. Les centrales nucléaires, n'en parlons pas.
Mais c'est évident.
Donc,
il n'y a rien. Mais on va pas parler de nucléaire avec vous. J'avais une petite question à vous poser, justement. Comment est-ce qu'on fait pour que les citoyens se réapproprient la production et leur production énergétique? Parce que ça, c'est un vrai engagement citoyen que vous portez, vous, avec éclat. Et c'est ça, le cœur, finalement, de votre association. C'est que les citoyens puissent se réapproprier quelque chose qui est externalisé de fait.
Dans l'appropriation, en fait, je pense qu'il y a deux choses. Il y a déjà porter à connaissance, parce que les gens, ils peuvent s'approprier que s'ils connaissent. Donc, nous, notre première mission, quelque part, enfin, c'est de faire connaître notre action, de faire adhérer, finalement, les gens, et puis d'inscrire notre action dans un projet aussi qui est plus global, en fait, un projet de territoire, notamment. Enfin, c'est vrai qu'on voit les assises de la transition énergétique sur Angers, etc. On voit que ça mobilise quand même des gens. Et nous, l'objectif, c'est de faire passer, finalement, tout ce qu'on entend, enfin, voilà, depuis des années, le réchauffement, etc. Enfin, tous les enjeux économiques aussi autour de voilà ce qu'on peut voir, la guerre en Ukraine, le prix de l'énergie qui explose, etc. Tout ça, ça fait prendre conscience aux gens de l'intérêt de développer des énergies localement, à la fois des énergies propres et puis des énergies qui procurent un intérêt économique fort pour le territoire aussi, parce que finalement, tout ce qu'on va produire sur le territoire, c'est ce qui ne sera pas acheté en Russie ou ailleurs.
On répond à plusieurs problématiques et notamment, on connaît tous des gens qui se disent « Ah oui, mais faut qu'on fasse quelque chose, faut que je fasse quelque chose. » Mais finalement, les gens, ils comptent sur les pouvoirs publics, sur les entreprises. Et puis, mais les politiques, ils font pas, gna gna gna, les entreprises, ils pensent qu'au business. Enfin, on entend tout ça. Bon, nous, on est des citoyens. On n'est pas payés. On fait ça tout à fait bénévolement. On offre justement la possibilité à ces gens-là, à travers une souscription, donc après, j'espère qu'on en parlera, d'avoir une souscription, de faire un acte fort et de se dire « je fais pas que d'en parler, je mets ma pierre à l'édifice ». Et ça, c'est quand même énorme. Sur Angers, si les gens ils veulent participer, qu'ils n'ont pas de toiture à la transition énergétique, c'est nous, éclat.
Mais, éclat, simplement pour en savoir plus, les citoyens, les citoyennes d'Angers et de la région pourront vous retrouver à l'occasion d'un ciné-débat.
Effectivement. Donc déjà, vous êtes porteur là en ce moment de deux projets, donc un sur une école, un sur le toit d'Emmaüs. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement?
Donc sur une école, c'est l'école Alfred de Musset, donc dans le quartier Montplaisir, comme je disais tout à l'heure, à peu près 200 mètres carrés de toiture pour 40 kilowatts, un peu moins de kilowatts crête de production. C'est un projet en fait qu'on a porté depuis 2018, qui a émergé dans le cadre du budget participatif de la ville d'Angers. On l'avait proposé, donc on l'avait mis au vote des habitants. Et il a été sélectionné finalement par les habitants d'Angers. Donc on voit aussi là, on retrouve bien cette volonté finalement de la population de développer ce type de projet. Et bon voilà, ça a mis un peu de temps parce que techniquement c'est compliqué, c'est un établissement qui reçoit du public, il y a des contraintes, etc. Mais voilà, ça y est, maintenant on arrive au bout et bien effectivement on n'a plus qu'à assurer le financement de ce projet. Puis le deuxième, donc c'est Emmaüs, donc la nouvelle salle des ventes d'Emmaüs à Saint-Jean-de-Linière, donc en cours de construction, qui sera inaugurée en septembre. Voilà, et donc là 500 mètres carrés, quasiment toute la toiture recouverte de panneaux solaires.
Ouais, et donc pour sensibiliser à toutes ces questions, on peut vous retrouver à l'occasion d'un ciné-débat aux Petites Folies le 15 juillet prochain.
Juin, excusez-moi.
Demain. Vous nous projetterez We the Power, les citoyens reprennent le pouvoir sur l'énergie.
Pas We the Power, hein.
We are the power. Oh, mais t'es relou. T'es vilain, là. Laisse-moi tranquille avec mon accent.
Donc justement, c'est l'occasion de présenter de faire ce que vous disiez tout à l'heure, que vous puissiez sensibiliser les citoyens à ce qu'ils deviennent adhérents d'Éclat et qu'ils puissent aussi se mobiliser à vos côtés tout en projetant ce film.
Oui, tout à fait. C'est un film enthousiasmant. On s'aperçoit qu'il y a des initiatives qui ont été prises dans d'autres pays, encore beaucoup plus importantes que nous, hein, carrément une région en Allemagne où en fait c'est carrément le réseau électrique qui appartient aux citoyens, comme s'il y avait une partie.
Ne raconte pas le film, il faut qu'il vienne déjà.
Mais c'est vraiment très enthousiasmant de regarder ce film et ça donne de l'énergie quoi. Et ça veut dire aussi, moi quand je l'ai vu que dernièrement, moi je suis un nouveau adhérent par rapport de Éclat. Ça donne de l'énergie et on se dit, si eux, ils ont réussi à faire tout ça, pourquoi nous, on n'arriverait pas à le faire quoi.
Donc, on le projette effectivement demain. Alors, les Folies Angevines, j'espère que les gens savent où c'est. Enfin, c'est sur l'avenue Montaigne, je crois.
Oui, avenue Montaigne. Oui,
c'est ça. Oui.
Alors, il y a les travaux du tramway, il faut faire gaffe.
Sinon, on tape les Folies Angevines sur un moteur de recherche.
Les Folies Angevines. C'est gratuit, donc venez à 18h30. C'est une belle salle, c'est une nouvelle salle en plus. Ça va être sympa, on vous projette ce petit film et puis après on vous explique qui on est. Venez sans stress, on va pas vous mettre vous obliger à faire un chèque pour participer. Déjà, nous on veut que les gens ils savent qu'on existe.
Puis hein, c'est l'occasion de boire un coup quoi.
Tout à fait. Il fera chaud.
C'est même obligatoire.
Merci beaucoup à tous les trois, Stéphane Méal, Dominique Briodeau et Vincent Briand-Boucher d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle donc, le 15 juin aux Petites Folies, juste en face des Folies Angevines.
Et vendredi au 122, oui. Un apéro débat aussi.
Ah oui, c'est vrai.
Donc ce vendredi au 122.
Et donc pour la projection, encore une fois.
Alors, là, ça sera juste un apéro débat.
Juste un apéro.
Voilà, juste une discussion autour de nos projets.
Eh bien super, merci beaucoup. On revient tout de suite à bord du pédalo. À bord du pédalo après une courte pause musicale.
C'était The Balek Band avec leur morceau Kenezam de Balek Band, le morceau de le groupe d'Abstract, c'est ça? Salut Fanch.
Ouais, le salut. C'est ici le groupe d'Abstract, enfin qui a signé un album là il y a quelques jours sur Abstract Records et qui est l'idée par Vidoc qui est à l'origine un peu de ce collectif. Qui existe cette année depuis 10 ans. Ouais.
Abstract, on va en parler dans une seconde. Juste pour préciser l'horaire, il est 18h27, c'est important l'horaire. On est toujours à bord du pédalo sur Radio Campus Angers. Donc Fanch, tu es un habitué des studios de Radio Campus Angers, tu es membre du collectif BAM, et le 25 juin, vous organisez une belle après-midi de DJ set dans le parc de Saint-Serge, justement avec le collectif Abstract.
Exactement. Donc
on vient d'entendre le morceau.
C'est ça. C'est ça, bah, plein de choses à dire, mais bon, on est à samedi 25 juin, donc samedi après-midi, 16h-23h, alors Parc Saint-Serge, peut-être que tout le monde situe pas encore, hein, parce que
c'est vrai, c'est une toute nouvelle,
une nouvelle arrivant dans les parcs angevins, qui est située en fait hein, tout simplement derrière la nouvelle patinoire, c'est là aussi que se trouve le nouveau skatepark.
Et le nouveau container.
Et les nouveaux containers, j'allais y venir, donc qui est un projet hein, qui est issu du budget participatif. L'idée, c'était tout simplement d'avoir un lieu de plein air pour la musique, pour que les associations puissent facilement en fait, organiser des événements par elles-mêmes, où elles peuvent tenir un bar et pas trop embêter le voisinage. Donc il y a ce lieu qui a été mis en place par des citoyens et la mairie, et on va l'investir pour là, en fait, je pense, les deuxièmes à l'investir du coup ce 25 juin.
Alors, grâce au container, justement, dans le cœur de ville, pendant 7 heures, je crois, de DJ set, de 16h à 23h, et je cite ce que vous avez écrit, le but du jeu, c'est de s'abandonner en règle pendant ces 7 heures.
C'est ça, bah c'est sûr que...
On va danser, quoi.
On va danser, le but, hein, c'est de danser, même si c'est l'après-midi. Puis le but aussi, bah, c'est vrai que... écouter de la musique dansante, écouter de la belle musique, c'est vrai que c'est, bah, bien sûr, on va pas non plus...
2 heures de DJ set, hein. Deux DJ set et 7 heures de mix.
Il y aura en tout 3 DJ sets différents, donc des différents DJ sets du collectif Abstract, du Sound System, et moi je vais mixer aussi du coup pour ma part 2 heures, et oui l'idée ça va être de vous faire voyager, de vous faire danser aussi, bien sûr.
Abstract, un collectif bien connu des Nantais qui fête leurs 10 ans, là, et vous les avez invités à l'occasion de leurs 10 ans.
C'est ça. Bah après, même originellement, hein, c'était un événement qu'on devait faire il y a 2 ans, qui avait été annulé avec le Covid. Et qu'on a reporté sous une forme différente, hein, dans un nouveau lieu. Mais au final, ça tombe bien, parce que ça tombe pour les 10 ans. Et puis surtout, ce qui tombe bien, c'est que en fait, pendant le confinement, du côté d'Abstract, ils ont fabriqué leur propre sound system, qui est un truc super qu'il faut vraiment écouter. En fait, répliques de Klipshorn. Donc les Klipshorn, en fait, c'est un modèle d'enceinte hi-fi qui existe depuis 1946. C'est des grosses enceintes en 1946. Ouais. Je crois que c'est le plus vieux modèle d'enceinte encore existant, où Klipsch, la marque qui fait ses enceintes, en produit quelques petites modifications tous les 10 ans. Ils font une V1, une V2, une V3, une V4. Mais c'est globalement hein, le même principe depuis le début. Et c'est une enceinte qui est très réputée en fait dans le milieu un peu hi-fi, audiophile, c'est considéré comme une des meilleures enceintes du monde en fait. Mais l'idée c'est que c'est tellement gros, hein, c'est une enceinte qui fait 100 kilos, qui est couplée avec d'autres enceintes, donc on a...
Là vous allez en avoir 6.
On a 6, donc 6 stacks de 2m10 de haut, on va faire un cercle. Et après voilà, l'idée c'est pas d'envoyer super fort, c'est justement au contraire de ne pas pouvoir mettre trop fort et d'avoir une définition la plus précise pour redécouvrir toutes les musiques qu'on va passer dessus et sur lesquelles.
Donc l'idée c'est vraiment d'être englobé, entouré, choyé par la musique.
C'est ça, et puis aussi de fournir, de donner à tout le monde, je dirais, l'occasion d'écouter un super sound system hi-fi que pas n'importe qui pourrait s'offrir, d'en faire profiter tout le monde et aussi de vivre une expérience différente parce que ça sonne pas du tout de la même manière que les enceintes qu'on peut avoir l'habitude d'écouter dans des gros festivals ou dans des gros concerts ou dans des bars, quoi.
Et donc, globalement, ce qu'on va pouvoir écouter, il y a des morceaux qui vont être issus de Balek Band.
C'est très possible, oui, qu'on joue quelques morceaux de l'album. Ouais. Et aussi du label, hein, parce que du coup, Abstract, c'est un peu nébuleuse. Ils font beaucoup de soirées différentes à Nantes, donc les Days qui sont... qui sont des fêtes de jour, un peu sur le même principe que ce qu'on va proposer le 25 juin. Ils ont fait avant un festival, ils faisaient un festival toutes les années à la rentrée qui s'appelait Résidence. Ils font aussi des soirées au Macadam. Mais à côté de ça, ils ont un label sur lequel ils sortent des artistes, des membres du collectif ou de Nantais, ou aussi des gens, Canote, qui est un groupe qui vient de Scandinavie, et en essayant de tout le temps dans leur esthétique qui mène au voyage un petit peu psychédélique, mais toujours dansante et qui parle au cœur.
Et donc vous, avec BAM, vous êtes copain d'Abstract depuis longtemps?
C'est ça. Bah, moi, ça fait assez longtemps que je les connais, en fait, hein, quasiment 10 ans. Et c'est vrai que j'aime bien dire, on est un peu les cousins nantais, entre guillemets, aussi plein d'autres gens, parce que ce qu'ils font sur Nantes,
ça cartonne,
mais surtout, c'était une grande inspiration. Moi, ça m'a fait revoir un peu ma manière de faire la fête et d'organiser la fête, et aussi de prendre en compte que chaque détail compte.
Comment on fait la fête avec Abstract et avec BAM?
Voilà, c'est quelque chose, déjà, c'est des gens qui sont hyper attentionnés sur des détails auxquels les autres ne font pas vraiment attention. Donc, bien sûr, pour faire une bonne fête, il faut avoir un bon lieu, il faut avoir c'est de la bonne musique, inviter des bons artistes. Mais eux, ils vont être très attentionnés sur la qualité du sound system. Ils ne vont pas hésiter à passer des heures à régler le son avant pour avoir la meilleure définition possible. Et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on remarque à la première oreille, mais qui peut vraiment faire une différence. Au niveau de la carte des bars, ils sont aussi très attentionnés, hein. Ils vont pas servir la première piste venue. Alors bien sûr, ils vont essayer de garder des prix accessibles, mais ils vont toujours servir de la bière artisanale. Ils ont tout le temps une super sélection de vins nature, de vins locaux. Plutôt que vendre du jus d'orange basique en soft, ils vont faire de la limonade maison, ils vont faire du kombucha maison. Et c'est con, mais quand on boit bien, on fait mieux la fête. Et puis aussi, ils ont aussi une super équipe, parce que c'est un peu... Tu vas dans une soirée là-bas, en fait, il y a des têtes que je recroise à leur soirée tous les ans depuis 8 ans, et qui font aussi, je dirais, un certain... Après, tout le monde est bien mu et ça tourne, mais il y a un esprit de famille, quoi.
Tu dis « il » depuis tout à l'heure, mais BAM s'inscrit aussi dans cette veine-là.
C'est ça. Voilà, une moindre échelle.
Évidemment.
C'est pour ça que c'est super inspirant.
Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas fait d'événement, là.
C'est ça. Ça fait longtemps, on a changé de nom aussi.
Avant, vous étiez la Bamboche. Alors, la Bamboche, ça s'est arrêté après la sortie avec le mot Bamboche qui est un peu apparu.
C'est ça, il y a un peu deux raisons au changement de nom.
Okay.
C'est vrai qu'il y a eu, pendant le confinement, du coup, un préfet qui avait sorti la Bamboche, c'est terminé. Nous, on ne pouvait plus du tout organiser d'événements, on était un peu tristes à ce moment-là, mais de voir ça au début, c'est vrai que ça nous avait fait bien marrer, comme tout le monde.
Ouais.
Et après, c'est vrai que là, ça fait quasiment 2 ans. Et en fait, on voit peut-être moi en plus, j'y fais encore plus attention du coup, mais je vois utiliser ce terme à tout va, et ça, ça m'a un peu saoulé. Et je trouvais aussi, je vois d'autres collectifs dans d'autres villes qui appellent leur soirée Bamboche ou machin.
Ouais.
Donc il y avait déjà une première raison qui est un peu la peur qu'on soit plus trop identifiable. Enfin, on savait que les gens qui nous connaissaient d'avant, ils allaient savoir, mais on avait peur que les gens qui connaissaient pas la Bamboche avant, ils aient du mal à comprendre que ça s'appelle bien la Bamboche, que c'est bien le nom du collectif. La deuxième raison aussi, c'est que ça fait plus de 5 ans qu'on fait ça. On garde toujours le même esprit, mais on a un peu évolué aussi. On a grandi, on a fait une grosse pause de 2 ans avant du confinement. Donc on s'est dit que c'était aussi pas mal de marquer un peu une renaissance en fait, en faisant renaître le nom. Et du coup, on a juste écourté, en fait, on a juste pris les 3 premières lettres.
Avec un petit point d'exclamation quand même.
Pour garder un côté.
Voilà, c'est ça. Et donc, on se retrouve aussi au Shabada, alors, a priori, à la rentrée.
C'est ça. Ça va très bientôt être annoncé officiellement, qu'on peut l'annoncer officiellement maintenant.
Ah, petite exclu sur les ondes de campus.
Oui.
Je crois que c'est ma première.
Donc, oui, 1er octobre prochain, hein, en fait, c'est un peu pareil. Hein, C'est vrai que les premières dates qu'on cale, en fait, c'est des dates qu'on devait caler il y a 2 ans, qui ont été annulées avec le Covid et qu'on essaye de recaler depuis 2 ans. Ce qu'on n'a pas fait aussi, on a arrêté parce qu'il y avait des phases où ça a repris culturellement, mais il fallait que les gens soient assis à un moment, ou il fallait faire à moitié, ou il fallait mettre des jauges. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas des professionnels, hein, on fait ça, on est complètement bénévole, on n'en tire rien. Et on s'est dit, moi, je préfère rien faire que faire les choses à moitié, que faire la fête à moitié.
C'est le tout ou rien.
C'est pour ça qu'on a attendu maintenant, où là, c'est, je pense, j'espère, sûr qu'on va pouvoir faire la fête, l'organiser comme on a envie de l'organiser.
Alors, qu'est-ce qui se passe au Shabada? Ouais.
Alors, du coup, au Shabada, ça va être un peu la même formule qu'on avait prévu il y a 2 ans. Donc, on va inviter Black Devil Disco Club, qui est un artiste super, un peu une légende, on peut dire, un peu de la dark disco, qui fait de la musique depuis la fin des années 70, qui a sorti un album éponyme qui est juste fantastique, avec des synthés dans tous les sens, hein, ça sonne un peu comme les premières productions de Giorgio Moroder, par exemple, hein, c'est des gros synthés, un peu dark, des voix vocodées, transformées, un peu dans tous les sens, c'est hyper dansant. Et pour, on complète le line-up du coup avec une artiste qui est un peu dans la même vibe, mais que disons c'est un peu plus moderne, donc c'est Bellaria. C'est oui, ça fait, je dirais, peut-être un an, ça un peu commence à monter progressivement, elle tourne de plus en plus. Elle est productrice, elle produit un peu des sons un peu inspirés italo-disco, wave, mais un peu remis, on va dire, au goût du jour. Et du coup, à côté, c'est une super DJ, et c'est pour ça qu'on va l'inviter pour clôturer la soirée, parce que ça sera du coup au format dans le club du Shabada, et de 23h à 5h, donc en format club. En format...
Ça ressemble un peu au moment où vous aviez invité Voila, là, il y a quelques années.
C'est ça, bah, ça va être le même format, mais sur une esthétique complètement différente. Plus dark disco, wave, électronique, tandis que Shabada, on était plus dans une esthétique... Ouais. Afrobeat, Afrogroove, disco, quoi.
Merci beaucoup, Fange, d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve donc samedi 25 juin au Parc Saint-Serge, derrière la partie noire, pour 7 heures de mix de 16h à 23h, pour profiter de ce système son incroyable, ce système audiophile. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Nous, on se retrouve dès demain sur les ondes du Centre FM, puisque le pédalo s'est terminé. Par contre, vraiment, on n'oublie pas les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.